Session de philosophie éthique par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 18 mai 1996, troisième conférence.
Le don de Dieu, la foi. Je n'ai pas dit tout à fait ça. Hein. Pouvez-vous expliquer la différence entre conversion et foi, car on adore Dieu à partir de notre conversion. Attention, et vous bloquez l'aspect de la vie chrétienne et ce que j'étudie en philosophe. Hein. Il y a une question qui s'en rapproche aussi. En quoi l'adoration religieuse et la vie de la grâce différencient-elles, hein, sont-elles différentes? L'adoration n'est-elle pas déjà une participation à la vie de Dieu? Non. Et donc, c'est de très bonnes questions. Et j'ai pas dit ça ce matin. Et je vous ai dit, quand on est du point de vue philosophique et d'une éthique religieuse, on voit comment l'homme cherche à connaître celui qu'on appelle Dieu. Et comme philosophe, il le découvre. Il découvre celui qu'on appelle Dieu comme étant l'être premier, le créateur. Et puis, l'attitude pratique par laquelle l'homme se tourne vers Dieu, c'est l'adoration. Donc, l'adoration, c'est le geste propre de la créature à l'égard du créateur. Je vous ai dit ce matin, je ne veux pas adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Et Dieu ne s'adore pas lui-même. L'adoration, c'est le geste et l'acte volontaire propre par lequel la créature se tourne vers Dieu et reconnaît cette dépendance. Mais comprenez bien qu'entre l'homme comme créature et le créateur, il y a un abîme. Parce qu'il est l'être premier, acte pur, cause de tout ce qui existe en dehors de lui. Dit que moi, comme créature, j'ai un essai participé, je n'existe pas par moi-même. Donc il y a un abîme entre les deux. C'est pour ça, vous voyez, que je ne peux pas dire que l'attitude religieuse est déjà une participation à la vie de Dieu. Non, ça c'est la grâce. Et la grâce, c'est exactement l'attitude inverse, je dirais. C'est Dieu qui se tourne vers l'homme et qui introduit l'homme dans sa propre vie. Et saint Thomas dit ceci, il dit « La grâce, c'est participation à la nature de Dieu. » Donc, qu'est-ce que c'est que la grâce chrétienne? C'est le bon plaisir de Dieu qui m'introduit dans sa propre vie en me promettant de vivre un jour la béatitude même qui est la sienne. Et donc, c'est tout à fait différent de l'attitude religieuse, c'est autre, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'Aristote dit qu'il ne peut pas y avoir d'amitié entre l'homme et Dieu. Il n'y a pas d'amitié entre l'homme et Dieu. Il y a un abîme. Je ne peux rejoindre le Créateur que dans l'adoration. L'amitié, s'il en existe une entre l'homme et Dieu, elle ne peut venir que de Dieu. Et c'est ça la grâce. C'est pour ça que saint Thomas dira, la charité, qui est une vertu théologale, l'amour divin, c'est une amitié. Et alors il fait cette remarque, il dit, mais oui, mais toute amitié exige forcément une connaturalité, une cognonia, une mise en commun, un fondement. Oui, or, c'est pour ça que, naturellement, comme philosophe, je ne peux pas parler d'amitié entre l'homme et Dieu, parce qu'il n'y a rien de commun entre l'homme et Dieu. Dieu est l'être premier, je suis une créature. Oui, donc je ne peux le rejoindre que dans l'adoration. Pour qu'il y ait une amitié entre l'homme et Dieu, ce qui est la charité chrétienne, l'amour divin, il faut que Dieu ait une initiative qui fait qu'il y ait en moi quelque chose qui me connaturalise à lui. Et ça, c'est la grâce. C'est pour ça que saint Thomas dit « La charité est une amitié qui se fonde sur le fait que Dieu me promet sa propre béatitude. Un jour, je vivrai pleinement ce que Dieu vit éternellement lui-même. » Donc, ce n'est plus seulement une question que je suis une créature de Dieu, c'est que je suis enfant de Dieu par la grâce. Je ne peux pas dire ça en philosophe. Ça, c'est le chrétien qui dit ça. Le christianisme est ici. Ici, c'est la philosophie. Je ne peux pas dire comme philosophe que l'homme est enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'il vit la vie même de Dieu. Oui, faites bien attention à ça. Oui, ne confondez pas ce qu'on dit dans l'adoration religieuse et ce qu'on dit de la vie de la grâce, qui est ce que dit le chrétien de sa propre vie chrétienne. Alors, c'est évident, vous voyez, si je suis chrétien, je vis de cette vie-là, je vis de la vie de la grâce. C'est ça qui m'intéresse et qui m'importe. Et donc, cette vie chrétienne va assumer l'adoration religieuse, et va assumer l'amitié humaine. Elle l'assume, donc elle la transforme. Et donc, vous voyez, la charité à l'égard de Dieu, l'amour divin, l'agapé, Oui, parce que charité, oui, dans le langage d'aujourd'hui, ça fait un peu armée du salut. Hein, c'est, faut faire attention. Hein. On parle d'œuvre de charité. C'est pas ça la charité. Hein. La charité, c'est l'agapé, l'amour divin dont Dieu s'aime éternellement. Ça veut dire que par la charité, j'aime comme Dieu aime. Vous pouvez pas dire ça en philosophie, vous comprenez? Aimer comme Dieu aime, mais ça n'est pas possible pour l'homme, parce qu'il est une créature. Donc ça n'est possible que si Dieu le surélève pour qu'il en devienne capable. Et ça, c'est la grâce. Et la grâce est une adoption filiale, hein, comme dit saint Paul. On devient fils de Dieu pour vivre ce que Dieu vit. Alors bien sûr, c'est très exigeant, parce que ça exige qu'on vive dans la dépendance actuelle à l'égard de l'Esprit-Saint. Oui. C'est ça que le Christ nous donne. Hein. Le Christ nous apporte la vie de la grâce. Il est source de la grâce pour nous. C'est ça que ça veut dire quand on dit que le Christ est le Sauveur. Et donc distinguez bien. Hein. La religion, l'homme religieux, c'est l'homme qui se tourne vers Dieu, qu'il découvre comme le Créateur. La vie chrétienne, c'est Dieu qui promet à l'homme sa propre vie et qui l'introduit dans son mystère par pure gratuité. Donc ça vient d'en haut. C'est ce que dit Jésus à Nicodème. Il faut naître d'en haut. Voilà la vie de la grâce. Alors Nicodème dit quoi, il faudra retourner dans le sein de sa mère. Il n'a rien compris. Il confond ces deux niveaux. Oui, hein, vous êtes un peu Nicodème. Il voudrait posséder la vie de la grâce et que ce soit par lui-même. J'ai dit, mais il faut renaître. À une nouvelle, oui, si expérimenté que tu sois, toi le docteur d'Israël, donc l'homme religieux, tu n'as encore rien compris, il faut que tu entres dans un mystère tout à fait nouveau. La grâce, ça vient de Dieu, pas de toi. Et donc comme chrétien, hein, c'est l'amour de Dieu est premier. Et nous répondons à cet amour. Ce que dit saint Jean dans sa première épître, hein, il est celui qui nous a aimé le premier. C'est pas moi qui ai aimé le Christ en premier, c'est lui qui m'aime. Et donc ne confondez pas, hein, surtout. Alors vous voyez, justement, quand vous dites donc, hein, vous avez dit que la contemplation nous amène à comprendre le don de Dieu de la foi, je n'ai pas dit ça. Hein, j'ai dit, puisque l'homme qui cherche Dieu, hein, le rejoint dans l'adoration, que l'adoration s'ouvre à la contemplation, c'est cela qui est la disposition la plus immédiate à recevoir la foi. Je n'ai pas dit, hein, nous amène à comprendre la foi, enfin, surtout pas. Vous ne pouvez pas posséder la foi. Mais si vous êtes un homme qui cherchait la vérité, et qui cherchait la vérité le plus que vous pouvez, or, chercher la vérité jusqu'au bout, c'est dans la contemplation, parce que Dieu est la vérité première. Vous devenez capable d'être dans l'attente de ce que Dieu pourra vous révéler de lui-même, et la foi c'est ça. Hein. La foi, c'est adhérer à la révélation que Dieu me fait de lui-même, de son propre mystère, que je ne suis pas capable d'atteindre par moi-même, par ma vie intellectuelle. Et donc, chercher la vérité jusqu'au bout me dispose, de la manière la plus immédiate, à recevoir une vérité qui vient d'en haut et que je ne peux pas dire par moi-même. Et c'est pour ça que, au point de vue, je dirais même apostolique, hein, la chose la plus importante, c'est de réveiller dans le cœur des hommes la recherche de la vérité. Parce que vous voyez, la conversion, ça vient que de Dieu. Hein, quand vous dites, hein, vous pouvez expliquer la différence entre conversion et foi. Et c'est ça, se convertir au Christ. Se convertir au Christ, c'est découvrir la foi. C'est-à-dire, c'est, hein, recevoir la vérité qui se révèle à nous. Et la foi, c'est adhérer à cette vérité première. Donc, seul l'Esprit-Saint peut convertir notre cœur. Ce n'est pas un homme qui peut vous convertir. Seul Dieu. Et ça vient d'un amour, comme dit saint Auguste, comme dit saint Augustin et saint Thomas. C'est un amour qui vient de l'Esprit-Saint, qui ouvre notre cœur à recevoir la foi. Mais quelle peut être notre coopération pour nous y préparer? Chercher la vérité le plus qu'on peut. Et si on est déjà chrétien, en cherchant la vérité en philosophie le plus qu'on peut, donc jusqu'à une contemplation philosophique de Dieu, c'est ce qui nous dispose le plus à laisser l'Esprit-Saint libre dans l'ordre surnaturel. Donc à entrer dans une vraie contemplation, un autre registre. Oui, c'est pour ça que la recherche de la vérité en philosophie, elle est nécessaire à quelqu'un qui veut mener une vie contemplative au niveau de la vie chrétienne. Parce que chercher le plus qu'on peut qui est Dieu, ça nous dispose à être complètement saisi par l'action de l'Esprit-Saint qui nous fait entrer dans un nouveau mystère qu'on ne pourrait pas saisir par soi-même. Oui. Donc il n'y a pas de contradiction entre l'intelligence et la foi. Aucune, au contraire. Mais il n'y a pas non plus prolongement. La foi vient d'en haut. Mais comment je m'y dispose? En cherchant la vérité. Oui. C'est ça ma coopération première. Mais ça, c'est objet d'expérience. Hein. Parce que vous voyez, celui qui ne cherche pas la vérité n'a pas envie de recevoir une vérité qu'il dépasse, c'est évident. Par contre, si je cherche vraiment la vérité, ah, peut-être que j'accepterais de m'ouvrir à une vérité que je n'aurais jamais saisie par moi-même. Oui. Mais déjà, c'est vrai humainement, ça. Quand vous cherchez vraiment la vérité, vous acceptez d'offrir un enseignement de quelqu'un qui est plus avancé que vous. Si vous ne la cherchez pas, vous dites « oui, c'est son opinion », puis vous passez outre. Bien, c'est pareil, si, vous... si on cherche vraiment la vérité dans toute sa vie, comme homme, et cette vérité implique d'aller jusqu'à découvrir que Dieu existe, et que je peux le contempler, mais comme philosophe, alors j'accepte de m'ouvrir à une vérité que Dieu me donne de lui-même, et qui porte sur le mystère que lui seul connaît, et qu'il me révèle par pure gratuité. La foi porte en propre sur le mystère de Dieu que mon intelligence ne peut pas découvrir par elle-même. Et il faut donc ne pas confondre ce qu'on appelle les préambula fidei, ce qui est les préambules de la foi, ce qui est juste au seuil, qui comme tel ne fait pas partie de la foi. Or, ces préambula fidei sont nets. L'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, le fait que Dieu est créateur et providence. Ça, je peux en parler en philosophe, ça n'est pas objet de foi. Mais c'est très important. La foi n'adhère pas à l'existence de Dieu au sens strict, parce que l'existence de Dieu peut être découverte par l'intelligence. La foi porte en propre sur ce que mon intelligence ne peut pas dire par elle-même, c'est-à-dire le mystère de la Trinité et le mystère du Christ. Ça, c'est la foi chrétienne dans tout ce qu'elle est de plus pur. Mais dire que Dieu existe, c'est pas seul, le chrétien n'est pas seul à le dire. Le musulman le dit aussi. L'hindouiste le dit aussi. Et ça, c'est respecter l'homme religieux, vous voyez. C'est humain, ça. C'est pas chrétien. Le chrétien, c'est quoi? C'est celui qui adhère au Christ comme le Fils de Dieu. Donc, qui dit, je crois que le Christ est le Fils de Dieu et qu'il est le Sauveur des hommes. Ça, seule la foi vous le fait dire. Il n'y en a pas d'évidence philosophique. Par contre, dire, il est nécessaire de dire que Dieu existe, ça, c'est philosophique, c'est pas l'objet de foi. Alors, bien sûr, si je ne l'ai pas découvert, la foi m'aide, vous voyez. Mais c'est une miséricorde de Dieu. Au sens strict, ce n'est pas objet de foi. Vous voyez bien, la nuance, vous voyez que c'est capital alors, de voir l'importance de la philosophie. Vous voyez. Sinon, on tombe dans ce qu'on appelle le fidéisme. Et le fidéisme est condamné par l'Église. Le fidéisme consiste à dire, seule la foi me fait dire que Dieu existe. C'est la position de Luther, ça. Puisque pour Luther, l'intelligence est détruite par le péché, donc elle ne peut plus connaître aucune vérité. Seule la foi lui fait connaître la vérité. C'est faux. Il y a une philosophie distincte de la foi. Et la foi, c'est d'ordre surnaturel. Elle porte en propre sur ce que je ne peux pas connaître de Dieu par moi-même et que Dieu me révèle par pure gratuité. Vous voyez, c'est pour ça. Plus vous allez loin en philosophie, plus vous permettez à la foi d'être libre. Parce qu'alors elle n'est plus encombrée par des choses qui ne la regardent pas directement, mais elle s'exerce en propre sur le mystère auquel elle adhère. Le mystère du Christ et le mystère de la très sainte Trinité. Vous voyez, de dire qu'il y a un seul Dieu en trois personnes, je ne peux pas le dire en philosophe, ça. C'est même obscur pour l'intelligence humaine. Parce que 1 et 3, ça ne va pas ensemble. Et donc, seule la foi me fait dire ça. Et j'en ai aucune évidence intellectuelle. J'y adhère dans une certitude de foi. Mais je n'ai pas l'évidence intellectuelle. La foi n'implique aucune évidence, mais une certitude divine. Tandis que la philosophie implique une évidence. Il est évident que Dieu existe. Au terme d'un raisonnement, bien sûr, mais ça devient une évidence intellectuelle, c'est pas objet de foi. Dit que la foi, je n'aurai jamais l'évidence de la très sainte Trinité par ma philosophie, jamais. Oui, c'est pour ça que le Christ dit, si vous ne redevenez comme des tout-petits, ça veut pas dire de bétifier dans son berceau. La foi fait de nous des tout-petits, parce qu'elle c'est accepter que nous vivions d'un mystère sans que nous ayons l'évidence directe. Oui, ce qui est très éprouvant pour l'intelligence. Et c'est pour ça que la foi reste, tant qu'on est sur la terre, la foi est une épreuve de l'intelligence. C'est une épreuve. Ne disons pas que la foi est facile. Elle est toujours une épreuve. Pas la philosophie. Ah non, non. La philosophie, c'est parfaitement humain. La foi, ça nous dépasse. C'est la vie de Dieu en nous. Vous ne trouvez pas que ça vous dérange un peu, Dieu en vous? Ça vous met à... Ça vous agrandit. Et donc c'est très important de ne pas confondre les niveaux, vous voyez. Donc ne confondez pas l'adoration religieuse et la grâce. Ne confondez pas la foi et la philosophie. Mais ça n'est pas contradictoire, oui. Chercher la vérité le plus qu'on peut nous dispose à pouvoir recevoir la foi. Mais recevoir la foi, ça ne vient que de Dieu. La conversion ne vient que de Dieu. Alors Dieu peut se servir de la prière de quelqu'un, très bien, mais ça c'est secondaire, enfin c'est autre chose. C'est pas vous qui allez convertir les autres, non, non, non. C'est l'Esprit Saint seul qui touche notre cœur et qui le convertit. Donc, vous voyez bien les choses, Alors, encore une dernière petite question, puis je continue. Comment? Je pense. Oui, ça c'est sûr. Mais Mais quand vous priez pour quelqu'un, vous acceptez d'être instrument. Vous n'êtes pas cause propre. Voyez, c'est pas vous qui allez dire « Chic, alors j'ai converti quelqu'un ». Attention, voyez, Dieu s'est servi de votre prière, mais c'est pas vous qui l'avez converti. Alors, on a beaucoup de joie, c'est sûr, ça n'a pu coopérer à la conversion de quelqu'un, mais on n'est quand même pas cause principale. Sinon, vous voyez, c'est quand même pas vous qui êtes la source de la révélation. Je dis ça avec humour. Justement, c'est, vous savez, c'est cette histoire qu'on raconte, qui est très très belle, ça fait bien comprendre ce que c'est. C'est cette histoire des frères Ratisbonne. C'est donc, il y en avait un qui s'était converti. Bon, c'était un juif, Alphonse de Ratisbonne, avec donc les fondateurs de Notre-Dame de Sion. Et qui, donc le premier qui s'était converti, priait pour la conversion de son frère. Et alors un jour, il rencontre un de ses amis qui dit « Je commence à me décourager parce que je prie pour la conversion de quelqu'un. Ça fait 10 ans que je prie, il n'y a rien qui se passe. Vraiment, je suis découragé, Dieu ne m'écoute pas. » Et l'autre a répondu « Comment ? Moi, ça fait 30 ans que je prie pour mon frère et je commence à espérer. » Et donc, c'est pour montrer qu'il faut, comme dit l'Évangile, il faut toujours prier sans se décourager. Et Jésus prend un exemple, pas commode, il prend l'exemple du juge inique et de la veuve importune. Il y a une veuve qui vient constamment dire au juge « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Alors il dit, il ne l'écoute pas, puis il finit par dire « Je vais finir par lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus me casser la tête, parce que j'en ai assez. » Non, il faut que tu entends casser la tête à Dieu, voyez, il finit par écouter. Alors, Dieu sans idée du mal, respectant la liberté humaine, comme étonné devant le chemin pris par l'orgueil de ce dernier. Qu'en pensez-vous ? Non, il n'est pas étonné. Où es-tu, lui dit-il dans la Genèse, après la chute ? Oui, mais attention, ça c'est un langage symbolique, pour montrer. C'est pour nous, pour faire comprendre que la faute nous éloigne de Dieu, donc on est comme étranger à Dieu. Et que l'orgueil, vous voyez, c'est intéressant parce que l'orgueil, au fond, l'orgueil, vous voyez, par rapport à ce qu'on voyait ce matin, l'orgueil, il serait intéressant à voir, mais dans une éthique religieuse, la faute, vous voyez, parce que comme on est dans un point de vue éthique, on regarde le bien et la finalité. Donc on voit aussi dans cette lumière le manque, donc le point de vue du mal. Est-ce que c'est que la faute ? Or, la faute première, dans une éthique de l'amour d'amitié, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est l'infidélité. Parce que je me suis engagé dans un choix par rapport à une personne, et je fais comme si ce choix n'était plus en acte. Alors je vais y revenir d'ailleurs à ce propos. Mais là, vous voyez, la faute par rapport à l'éthique religieuse, c'est l'orgueil. C'est-à-dire l'orgueil, c'est concrètement, c'est le refus de l'adoration. Si volontairement, ayant découvert que Dieu existe et qu'il est le Créateur, je refuse de l'adorer, c'est l'orgueil, ça, oui. Donc, vous voyez, il faut bien voir. Et l'orgueil nous sépare de Dieu. Donc, vous voyez, c'est ce que dit le livre de la Genèse quand il prend ce langage symbolique, c'est pour montrer ça. Où es-tu ? Parce que l'homme s'est caché dans le jardin. Bien sûr que Dieu sait où il est, vous voyez. C'est pour nous faire comprendre, vous voyez. Donc, mais ce qui est important de voir, vous voyez, c'est que puisque Dieu nous regarde comme le Créateur, Dieu ne nous regarde pas comme le gendarme qui compte nos fautes. Non. Il nous regarde toujours à partir de son amour. Oui. Parce que Dieu nous crée par amour. Et donc, il nous regarde comme créature dans cet amour-là qu'il a pour nous. Donc, il y a toujours par conséquent, dans le regard de Dieu qui nous aime, toujours par rapport à nous, un regard de miséricorde. Et non pas, avant tout, un regard de juger et de comptabiliser nos fautes. C'est pas ça. Dieu se sert même de nos fautes pour aller plus loin dans son amour. C'est ça, sa miséricorde. C'est pas dire qu'on doit dire, bon, peu importe, non. Oui, mais ne voyons pas le regard de Dieu comme une espèce de chose extérieure. Dieu nous regarde à partir de lui, dans son amour, en premier lieu. Il nous regarde toujours dans ce qu'on a de meilleur. Et puis, comme chrétien, je pourrais dire qu'il nous regarde toujours à travers le Christ. Donc, comme sauveur. C'est ce qu'on appelle le mystère de la prédestination. La prédestination, vous comprenez, ce n'est pas de dire « je suis prédestiné par Dieu à être je ne sais quoi ». Non, je suis prédestiné à être enfant de Dieu. Donc le cri « Dieu me regarde toujours », le Père me regarde toujours à travers le Christ crucifié. C'est ça la prédestination. Il me regarde comme étant celui qui est sauvé par le Christ. Et c'est dans cette lumière-là qu'on doit se regarder. Sinon, vous voyez, on perd le regard vraiment de la foi. Alors je continue ce que j'ai commencé ce matin et je poursuis. Donc, vous voyez, on a essayé de voir ça, comment l'adoration s'ouvre à cette contemplation, vous voyez, qui n'est pas une contemplation chrétienne ici, hein, contemplation au sens philosophique du terme, qui est donc une contemplation, on pourrait presque dire, vous voyez, j'allais dire acquise, comprenez bien ce que je veux dire, hein. Ça ne veut pas dire que je la possède, mais elle est source, vous voyez, la contemplation est source en moi d'un habitus intellectuel, qu'est-ce qu'on appelle la sagesse. Vous voyez, la sagesse philosophique, la sagesse, c'est une qualité acquise de l'intelligence qui me dispose et qui a pour acte la contemplation. Et saint Thomas dit ceci, dit « Sapientia est habitus contemplativus ». La sagesse, c'est un habitus dans l'ordre de la contemplation. C'est-à-dire, oui, habitus, hein, ça transcrit le grec « exis ». Donc, ça vient oui, du verbe « habere » ou en grec « exis » vient de « eken », c'est la même racine, « avoir ». C'est-à-dire, c'est une qualité que j'ai acquise. Oui, la vertu morale est un habitus. Oui. Je ne suis pas naturellement courageux. Je ne suis pas naturellement tempérant. Je ne suis pas naturellement prudent. Je deviens courageux, prudent, tempérant, juste. Je deviens sage d'une sagesse philosophique. Vous avez posé la question, combien de temps ça met, hein ? Je deviens sage. J'acquiers progressivement un habitus. Et ce qui me fait acquérir l'habitus de sagesse, c'est la contemplation. Et donc, la sagesse va donc stabiliser mon intelligence dans cette orientation. Ça veut dire, vous voyez, que pour le philosophe, il contemple quand il veut. À la différence de la contemplation chrétienne qui est infuse, qui dépend donc du bon plaisir de l'Esprit-Saint, ce qu'on appelle la contemplation mystique. La contemplation philosophique, elle relève de notre travail en premier lieu. C'est une conquête, vous comprenez. Donc ça veut dire que le philosophe, quand il a vraiment l'habitude de sagesse, il contemple quand il veut. Oui, il ne faut pas qu'il ait trop mal à la tête, oui, mais il contemple quand il veut. C'est important, vous voyez, de voir ça. Et en même temps, je dois comprendre en même temps que dans un regard de sagesse philosophique, en même temps, c'est ce qu'on a vu ce matin, il y a un regard de Dieu comme Père dans cette activité. Dieu est présent auprès de moi comme Père, donc comme Providence, qui me guide, qui m'accompagne dans cette recherche de la sagesse. Et c'est pour ça, je crois qu'on peut dire, quelqu'un comme Aristote, c'est évident qu'il y a un regard de Dieu comme Providence pour donner une philosophie comme celle-là. Et la recherche de la vérité en philosophie poussée jusqu'au bout, ça implique le concours de Dieu comme créateur et providence. Vous comprenez bien, on n'est pas ici au niveau de la grâce chrétienne. On est au niveau du regard de Dieu comme Père. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui concerne le bonheur de mon esprit. Et or, c'est Dieu qui est source de mon esprit. Donc il s'intéresse à mon bonheur ultime. Vous comprenez ? Il n'y est pas indifférent. C'est pour ça que je disais ce matin, vous voyez, que je l'ai dit, comprenez bien la vision qu'on a. Ce qu'on dit habituellement aujourd'hui, par exemple Hans Küng dit ça avec beaucoup de mépris, il dit au Dieu d'Aristote, c'est un Dieu immobile, séparé du monde, qui ne s'intéresse pas aux hommes. Mais c'est faux. Lisez Aristote. Aristote dit bien, si Dieu prend quelques soucis des affaires humaines, ce dont il s'occupe le plus, c'est de la recherche de la sagesse dans le cœur de l'homme. Et c'est très très beau, alors c'est extraordinaire. Ça veut dire que dans un regard philosophique, Dieu s'intéresse avant tout, dans le cœur de l'homme, à cette recherche ultime de la sagesse. C'est ça qui intéresse le plus Dieu en nous. Et aussi l'amitié. C'est une vraie fin humaine, oui. Donc vous voyez, c'est très fort comme regard. C'est pas du tout Dieu indifférent, au contraire. Puisque c'est comme ce qui nous connaturalise avec Dieu au point de vue philosophique, au point de vue naturel. Chercher à contempler Dieu, c'est nous approcher de lui. Donc ça l'intéresse. Ça, c'est important, vous voyez, de voir ça. De voir ce regard qu'Aristote a, qui est tellement fort. Donc vous voyez, je dis bien ça pour que... Vous comprenez, mais vous voyez, deuxièmement, j'insiste bien, c'est pour ça que c'est très nuancé tout ça. Quand je dis que c'est acquis, que la sagesse est acquise, c'est parce qu'elle est le fruit d'un travail. En même temps, elle me laisse complètement dans cette espèce de pauvreté. Pour ça, je dis, ça me stabilise, mais dans une orientation. Vous voyez, j'ai bien dit, je parlais d'orientation. Pourquoi ? Parce que la contemplation ne se réalise jamais sans l'adoration. C'est l'adoration qui me donne le sens de ma pauvreté de créature. Ça veut dire, vous voyez, que je ne peux jamais posséder complètement la vérité première. Je suis suspendu à elle, attiré par elle. Et ça, vous voyez, c'est l'erreur hegelienne. Pour Hegel, il finit par croire, au terme de sa dialectique, que la dialectique lui fait posséder la vie même de Dieu. C'est extraordinaire. Et pourquoi ? Parce qu'il est luthérien. Donc pour lui, il n'y a plus de sagesse philosophique. Il croit que la foi remplace la philosophie. Et donc, par la foi, il croit qu'on connaît parfaitement tout ce qu'est Dieu. Et qu'au terme, on est identique à la vie même de Dieu. Vous ne pouvez pas dire ça, vous voyez. Mais c'est très intéressant, parce que vous voyez, il y a bien comme cette espèce de parallélisme. Vous voyez, pour Aristote, il y a comme une parenté entre notre esprit et Dieu. Vous voyez, il y a comme une parenté. Mais une parenté qui implique toujours cet abîme de la création. Et donc, je ne peux vivre de cette attraction par rapport à Dieu que grâce à l'adoration. C'est pour ça que c'est bien le fondement et la pierre de touche de l'éthique religieuse. L'homme ne peut contempler Dieu qu'en l'adorant parce qu'il est une créature. Et je ne possède pas la contemplation. Je la désire, je la cherche, je suis orienté vers elle. C'est une fin qui m'attire. C'est pas une chose que je possède. Et qu'est-ce qui me permet de comprendre ça concrètement? C'est l'adoration. Vous voyez, je vous ai dit hier, l'adoration regarde d'abord l'être. La contemplation regarde d'abord l'esprit. La contemplation regarde notre esprit. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une petite distinction très très belle. L'adoration, parce qu'elle regarde l'être, je vous ai dit hier, elle est fondamentale. Elle me stabilise, elle est un fondement. La contemplation regarde mon esprit, fait pour Dieu, et donc elle me finalise. Que vous voyez bien ça. L'être et l'esprit. C'est le grand débat actuel en philosophie. Quels sont les rapports de l'être et de l'esprit? L'homme est un esprit, mais il a une intelligence qui est reçue, qui est la puissance d'une âme spirituelle qui est créée par Dieu. Et donc, vous voyez, l'esprit, mon esprit, c'est l'esprit de quelqu'un qui est créé, qui ne peut donc vivre pleinement la vie de l'esprit. Oui, or, Dieu est esprit, qu'en acceptant cette condition de créature, et ça c'est l'adoration. Oui. C'est très fort comme regard. Oui, je ne possède pas mon intelligence. Je ne suis pas substantiellement esprit. Oui, la vie de l'esprit en nous n'est pas substantielle. C'est très important à comprendre. Oui. Et ça c'est la grande erreur du néoplatonisme. Pour les néoplatoniciens, pour Platon, oui, nous sommes substantiellement esprit. Pour Platon, l'âme s'identifie à l'esprit. Non. L'esprit est une puissance de l'âme. Donc une faculté. Je peux quand même pas dire que je suis substantiellement ma pensée, vous voyez. Ce serait un peu inquiétant. Si vous dites, mon être, c'est mon esprit. Mais non, parce que vous existez même quand vous ne pensez pas. Et c'est pour ça, oui, c'est intéressant, parce que on voit poindre, vous voyez, quand vous voyez Descartes, Descartes reprend l'erreur du néoplatonisme. Quand il dit « cogito ergo sum », je pense donc je suis. Progressivement, pour lui, l'esprit et l'être s'identifient. Quand il dit « je suis une substance pensante ». Mais on ne peut pas dire ça. Je ne suis pas substantiellement ma pensée. Mon être n'est pas mon esprit. Oui. Mon esprit existe, mais mon être ne se ramène pas à mon esprit. Donc je ne peux pas m'identifier à la vie de mon esprit. Je ne peux pas m'identifier à la contemplation. C'est ce que fait Platon. Oui. Et c'est ce que refera après Descartes, et c'est ce que fait Hegel. Oui. Pour eux, et donc pour le néoplatonisme, la vie de l'esprit est substantielle. Oui, donc là, il y a quelque chose d'extrêmement important. Vous de voir que c'est vraiment l'adoration qui nous fait comprendre ça. Parce que l'adoration me fait saisir que je suis un être créé. Donc, je ne possède pas mon esprit. Oui. C'est très important de voir ça. Seul Dieu, j'allais dire, entre guillemets, possède sa contemplation. La vie contemplative, c'est la vie propre de Dieu. C'est sa vie substantielle. Pour nous, notre contemplation n'est pas substantielle quant à son exercice. Elle l'est quant à son terme, qui est Dieu, pas quant à son exercice en nous. Et alors, pour mieux vous faire comprendre, je vais vous lire un petit passage d'Aristote qui fait bien comprendre ça, qui est extraordinaire, sur le fait que le bonheur de l'homme est une activité théorétique, mais qu'en même temps, contemplative, mais qu'en même temps, c'est quelque chose qui est comme au-delà de l'homme. Donc c'est très très beau. Alors, que le parfait bonheur, donc c'est dans l'éthique à Nicomaque, c'est, entre parenthèses, c'est une œuvre importante à lire. Je dis ça, avis aux amateurs. C'est difficile, je vous préviens, mais... Même le Reader's Digest dit que c'est une des œuvres qu'il faut avoir lues dans sa vie. Alors, vous voyez, s'il dit ça... si même les Américains disent ça, vous voyez... C'est que ça doit être vrai, quand même. Alors, parce qu'ils ne sont pas grecs. Et ils disent ça, donc ça prouve qu'ils reconnaissent qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant chez Aristote. Bon. La métaphysique, ils ne disent pas. Ils ne disent pas qu'il faut lire la métaphysique d'Aristote, ce que je pense que c'est un peu difficile. Oui. Mais l'éthique à Nicomaque, au moins, oui. Alors, que le parfait bonheur soit une certaine activité théorétique. Donc, vous voyez, théorétique, donc, vous voyez, c'est, donc, je vous donne la référence. Éthique à Nicomaque, Livre 10, chapitre 8. Donc, vous voyez, théorétique, hein, je crois que c'est important, vous voyez, de garder cette expression, parce que vous voyez, hein, ça vient, donc, en grec c'est théorétique, ça vient de théoria, hein, qui veut dire la contemplation. Donc, c'est l'adjectif qui correspond. Donc, voyez, quand on dit théorétique, traduisez contemplative. Mais comprenez bien, au niveau philosophique, hein, ne traduisez pas par théorique ou par spéculatif. Il faut faire attention à ça, parce que souvent on dit intelligence spéculative. Ah oui, la spéculation boursière, c'est pas ça. Hein. Intelligence théorétique qui contemple. Et je ne peux contempler que Dieu. Que le parfait bonheur soit une activité théorétique, contemplative. Les considérations suivantes le montreront encore avec clarté. Nous concevons les dieux. Alors vous voyez, toujours, ça c'est aussi un débat important, parce que vous voyez, Aristote joue toujours entre les dieux, hein, et Dieu. Oui, parce qu'il est dans un contexte de tradition religieuse. Et justement, alors voyez, on parle donc des dieux dans la tradition religieuse grecque. Et l'effort d'Aristote à la suite de Socrate et de Xénophane, c'est de montrer justement que Dieu ne peut être qu'une X, qu'il dit explicitement dans la métaphysique. Vous voyez, donc quand il dit ça, il est au niveau de l'opinion. Nous concevons les dieux. Ce que dit la tradition religieuse, c'est qu'ils estiment que les dieux sont heureux. Et donc, ici, est au niveau de l'opinion. Il sert des traditions religieuses. Nous concevons les dieux comme jouissant de la suprême félicité et du souverain bonheur. Et c'est très beau de dire ça. Mais quelle sorte d'action devons-nous leur attribuer? Et donc, on peut dire les dieux, hein, ou et dans la métaphysique, Aristote va jusqu'à dire, ce qui est très beau, hein, que la vie de Dieu implique la joie par rapport à ceux qui font des enquêtes sur le rire. Hein, parce que oui, c'est vrai, c'est toute l'école byzantine qui a montré que le Christ ne rit pas. Alors, c'est pas tout à fait juste de dire ça. Si vous prenez exégétiquement, c'est sûr, il n'est pas dit dans l'Écriture que Jésus rit aux éclats, non. Mais il y a beaucoup d'humour en Dieu. C'est ça, parce que vous voyez, il y a des gens qui cherchent à comprendre ce que c'est que le rire au point de vue théologique. Alors, nous concevons les dieux. Nous concevons les dieux comme jouissant de la suprême félicité du souverain bonheur. Mais quelle sorte d'action devons-nous leur attribuer? Est-ce les actions justes? Oui. Alors, est-ce que, oui, c'est très intéressant. Est-ce que ce qui est le plus propre à Dieu, c'est la justice? Oui, c'est, oui, là, il y a un essai de contemplation. Hein. Qui est Dieu? Est-ce que ce qui est le plus propre à lui, c'est la justice? Est-ce les actions justes? Mais ne leur donnerons-nous pas un aspect ridicule en les faisant contracter des engagements, restituer des dépôts et autres opérations analogues? Et donc, hein, la justice, si on se ramène tout à la justice commutative, hein, qui est donnant, la justice des contrats. Oui, mais il y a des gens qui conçoivent Dieu comme ça. Hein. C'est des contrats. Hein, je te donne ça, tu me donnes ça. Hein. Quand même, Seigneur, j'ai quand même fait beaucoup d'efforts, maintenant donnez-moi ma récompense. Oui. Et justice commutative. Dieu est quelqu'un qui fait des trocs. Oui. Non. Sera-ce des actions courageuses? Et les dieux affronteront-ils des dangers? Courront-ils des risques pour la beauté de la chose? Ou bien alors, est-ce que ce sera des actes de libéralité? Vous voyez, est-ce que c'est le courage? Est-ce que c'est la libéralité? Et tout ça a peut-être quelque chose à voir avec Dieu, hein, mais est-ce que c'est ce qui est premier? Et qu'est-ce qui est le plus propre à Dieu? Ou bien alors, ce sera des actes de libéralité? Mais à qui donneront-ils? Il serait étrange aussi qu'ils eussent à leur disposition de la monnaie ou quelque autre moyen de paiement analogue. Et les actes de tempérance, qu'est-ce que cela peut signifier dans leur cas? Oui, donc, oui, c'est très intéressant parce que oui, on prend la question des vertus. Est-ce que les vertus morales nous disent quelque chose de Dieu? Et Aristote dit rien du tout. Ah, c'est très rassurant alors, vous voyez. Et c'est très important pour une éthique religieuse, ce que je vais montrer tout à l'heure, vous voyez, que l'adoration va rectifier notre vie morale, mais elle n'est pas source immédiate de l'acquisition des vertus morales. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas en adorant que vous acquérez la vertu de tempérance. Non. La vertu de tempérance s'acquiert par des actes de tempérance. Et la vertu l'adoration, la vertu de religion, viendra corriger la tempérance pour la vie d'une certaine manière. Mais on peut très bien adorer Dieu et faire encore des actes qui sont intempérants ou manquent de courage. C'est pas, oui, c'est très important de bien voir ça. Oui, d'où la nécessité d'une éthique humaine, de l'amour d'amitié. Ce n'est pas Dieu qui rectifie immédiatement notre vie morale. La vie morale se structure d'abord dans le rapport des hommes les uns avec les autres. Et l'éthique religieuse transforme cette vie morale, l'approfondit par rapport à Dieu. Et on voit même ça dans l'Écriture. Quand on monte même avec Abraham, qui à la fois, qui n'est pourtant pas immédiatement converti dans l'ordre de la vie morale. C'est très important, vous voyez. Parce que l'attitude par rapport à Dieu, c'est l'aspect du sacré, pas d'abord du moral. Les actes de tempérance, qu'est-ce que cela peut signifier dans leur cas? N'est-ce pas une grossièreté de les louer de n'avoir pas d'appétit dépravé? Oui. Donc tout ça, oui, ce sont des anthropomorphismes. Si nous passons en revue toutes ces actions, les circonstances dont elles sont entourées nous apparaîtront mesquines et indignes des dieux. Et pourtant, on se représente toujours les dieux comme possédant la vie, et par suite l'activité, car nous ne pouvons pas supposer qu'ils dorment comme Endymion. Or, pour l'être vivant, une fois qu'on lui a ôté l'action, oui, l'action c'est la praxis, hein, vous voyez, autrement dit, vous voyez, tout ça concerne la praxis, c'est-à-dire l'activité morale, humaine. Oui, connaître Dieu, ce n'est pas projeter sur lui notre activité volontaire humaine. Ça c'est de l'anthropomorphisme. Il s'agit de découvrir qu'est-ce qui est le plus propre à lui, quelle est sa vie en propre, quelle est la sienne. Pour l'être vivant, une fois qu'on lui a ôté l'action, et à plus forte raison, l'activité artistique. Oui, c'est très, très intéressant. Oui. Je ne peux pas voir l'activité de Dieu comme une activité purement morale, comme celle des hommes, ni comme une activité artistique. Et donc, hein, en grec, la poiesis. Vous voyez, tout ça, c'est le domaine pratique de l'homme. Hein. La morale et l'art. Tout ça ne me dit rien en propre de Dieu, c'est propre à l'homme. L'art et la morale sont proprement humains. Je ne peux donc pas projeter en Dieu ces activités typiquement humaines. Dieu a une activité souveraine qui est au-delà de ces activités. Oui, c'est pour ça que quand on prend l'image de l'artiste pour faire comprendre, hein, le mystère de la création, c'est une image. L'analogie de l'art, c'est une analogie. Hein, Dieu n'est pas quelqu'un qui travaille, vous comprenez? Que lui laisse-t-on d'autre alors que la contemplation? Par conséquent, vous voyez, il procède par élimination ici, vous voyez. Par conséquent, l'activité de Dieu qui surpasse en félicité toutes les autres ne saurait être que contemplative. Et par suite, de toutes les activités humaines, celle qui est la plus apparentée à l'activité divine sera aussi la plus grande source de bonheur. Un signe encore, c'est que les animaux autres que l'homme n'ont pas de participation au bonheur du fait qu'ils sont totalement démunis d'une activité de cette sorte. Tandis que chez les dieux, la vie est tout entière bienheureuse, comme elle est aussi chez les hommes, dans la mesure où une certaine ressemblance avec l'activité divine est présente en eux. Et c'est très très beau. Hein. En effet, chez les dieux, la vie est tout entière bienheureuse. Rien qui ne vienne troubler la félicité divine. Il n'y a pas chez l'animal trace de bonheur, parce qu'en aucune manière, il n'a part à la contemplation. Et donc le regard du lion, non, il ne contemplait pas l'horizon. Non. Le bonheur, oui, c'est extraordinaire de ce qu'il dit après. Le bonheur est donc coextensif à la contemplation. Et plus on possède la capacité de contempler, oui, par conséquent, la sagesse. Plus on possède la sagesse. La sagesse, capacité de contempler. Donc, c'est d'abord, oui, notre intelligence naturelle. Oui. Tout homme, par son intelligence, est capable de contempler. Et l'effort de la philosophie, c'est d'acquérir un habitus de sagesse qui vient accroître et perfectionner et stabiliser cette capacité de contempler, qui est de comprendre que l'intelligence, ultimement, est faite pour connaître la vérité première, qui est Dieu. Si mon esprit vient de Dieu, s'il est fait pour la vérité, il est donc fait ultimement pour connaître la vérité première qui est Dieu. Tant que je ne suis pas face à la vérité première, je ne peux pas trouver le repos parfait de ma vie intellectuelle. C'est ça qu'il veut dire. Oui. Et le bonheur est donc coextensif à la contemplation. Vous voyez, plus on a cette capacité, plus on peut être heureux. Cela non par accident, mais en vertu de la contemplation même. Car cette dernière est par elle-même d'un grand prix. Il résulte donc que le bonheur ne saurait être qu'une forme de contemplation. et le bonheur ultime de l'homme. Alors, il y a encore un petit passage que je vais vous lire, et puis ensuite, je m'arrêterai quelques minutes, et puis on conclura sur le rapport de l'adoration et de l'amitié. Donc, vous voyez, Aristote fait encore cette remarque. Voilà. Oui, c'est vrai. Une vie de ce genre, oui, c'est ce que dit Aristote. Hein. Il dit, les mathématiques sont nées en Égypte grâce à la caste sacerdotale qui avait des loisirs. Or, les mathématiques, c'est le point de départ de la connaissance théorétique. Et ça ne veut pas dire que c'est réservé à quelqu'un, mais ça veut dire qu'on doit prendre conscience de l'importance de ça dans notre vie. On dit réservé du... Oui, c'est pour ça que, par rapport à la sagesse, la prudence va intervenir. Oui. Si je comprends l'importance de la sagesse et de la contemplation dans ma vie, je dois tenir compte de ma prudence morale, oui, et ça c'est l'éthique religieuse, de l'importance de cette recherche de vérité. Oui. Donc, vous voyez, comment l'adoration et la contemplation vont-elles modifier notre prudence? De comprendre que notre vie morale n'est pas uniquement relative à l'homme, mais que c'est important de réserver du temps pour connaître qui est Dieu. Oui. C'est très important. Donc je suis d'accord avec vous que avoir du temps pour chercher la vérité, c'est un luxe. Un luxe. Oui, c'est une très grande chance, c'est vrai. Parce que quand on est pris par la pure efficacité, c'est très difficile. Et donc, alors, à chacun, dans sa prudence, de voir comment il peut saisir l'importance de cette formation d'intelligence qui est faite pour la contemplation. Parce que ce n'est pas une question superficielle, c'est une question de bonheur. Humain, hein, on n'est pas ici au niveau chrétien. Alors, au niveau du chrétien, encore plus. Hein. Parce que la contemplation, la foi est immédiatement contemplative. Hein. C'est une nécessité pour le chrétien. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et donc c'est très important de... Mais ça, vous verrez ça demain dans l'éthique, à propos de l'éthique chrétienne. Hein. L'éthique chrétienne est tout de suite contemplative. Parce que c'est la vie de Dieu en nous. Hein. Alors je lis encore ce petit passage. Hein. Et donc justement, il y a le petit doute là. Voyez. Alors il y en a qui disent. Hein. Mais une vie de ce genre sera trop élevée pour la condition humaine. Hein. Pas commode, hein. Car ce n'est pas en tant qu'homme qu'on vivra de cette façon, mais en tant que quelque élément divin est présent en nous. Oui, le nous, l'esprit. Et autant cet élément est supérieur au composé humain. Alors oui, c'est très intéressant parce que là, ici, on a bien, chez Aristote, un embryon de réflexion sur les rapports entre la prudence morale et l'amitié et la contemplation. Oui, je vous ai dit ce matin, l'amitié, c'est le bonheur de l'homme qui implique l'âme unie substantiellement au corps. Donc c'est le premier bonheur humain, hein, qui est vrai pour tout homme et que la contemplation ne supprime pas. Donc, vous voyez, dans le langage philosophique d'Aristote, c'est ça, c'est, dit-il, le composé. C'est-à-dire, l'homme est composé d'âme et de corps. Il implique une unité substantielle de vie et d'être entre l'âme et le corps. Donc c'est un être complexe, c'est vrai. L'homme est l'être le plus complexe. Dieu est tout à fait simple, nous nous sommes complexes. Oui, on dit ça, hein. Car ce n'est pas en tant qu'homme qu'on vivra de cette façon, mais en tant que quelque élément divin est présent en nous. Et autant cet élément est supérieur au composé humain, autant son activité est elle-même supérieure à celle de l'autre sorte de vertu, c'est-à-dire de la prudence. Vous voyez ? L'âme et le corps, hein, le composé d'âme et du corps, qu'est l'homme ? La vie humaine de l'homme qui mène sa vie sur la terre. Donc le rapport de l'homme avec l'homme. Il est régi, hein, par la prudence, qui est tout entière ordonnée à l'amitié. Si je suis prudent, c'est pour vivre pleinement de l'amitié, qui est le rapport parfait de l'homme avec l'homme. Oui, c'est ce que veut dire Aristote. Donc, le bonheur de l'homme comme homme, c'est l'amitié qui exige les vertus morales. Et pour Aristote, la clé des vertus morales, c'est la prudence. Quand j'acquiers la prudence, j'acquiers par le fait même toutes les autres vertus, hein, toutes les vertus morales. Parce que les vertus morales sont connexes dans la prudence. Parce que acquérir une vertu, ça implique toujours l'intelligence, donc la prudence. Je prends un petit exemple, vous voyez. Acquérir la vertu de courage, ça exige la prudence, parce que c'est acquérir le courage, c'est donc rectifier mon irascible en vue de la fin humaine que je poursuis. Je ne peux pas acquérir la vertu de courage sans la prudence. Donc, quand je fais un effort d'être plus intelligent dans ma vie pratique, par le fait même, je progresse sur les vertus morales, et c'est très consolant. Quand on fait un effort sur une vertu, on progresse par le fait même sur les autres, vous voyez. Donc c'est intéressant, oui. C'est profite, oui. Bon. Oui. Alors, Et puis, il y a quelque chose qui émerge, c'est le nous, c'est-à-dire l'esprit. Et ça ne veut pas dire que l'esprit n'est pas présent ici, il est présent bien sûr, oui. Mais ça veut dire que l'intelligence de l'homme ne peut pas se satisfaire uniquement d'une vie pratique pour régler par la prudence les affaires pratiques de l'homme. Oui. Ce que j'ai dit ce matin, oui. L'appétit de vérité qui est en nous ne peut pas être complètement satisfait par uniquement la connaissance pratique de la prudence. C'est pour ça que le dépassement vers la contemplation, ça relève de l'appétit de vérité qui est en nous. Si mon intelligence, oui, mon esprit est faite pour connaître la vérité, c'est ça qui fait le dépassement par rapport à la pure vie pratique de prudence et de prudence politique, et même de l'amitié. L'ami ne peut pas être la mesure de ma vérité spéculative. Je ne peux pas dire à l'ami, tu es ma vérité. Non, je cherche la vérité avec toi, mais la vérité nous dépasse tous deux. C'est très important de bien voir ça, vous voyez. Donc, vous voyez, c'est ça que la remarque d'Aristote dit. Alors, vous voyez au fond, de même que l'esprit est comme un dépassement de ce composé humain de l'âme et du corps. Oui. C'est ce qu'Aristote appelle le nous séparé. Hein. L'esprit séparé de la matière. Oui. Notre intelligence, dans ce qu'elle a de plus elle-même, dépasse le conditionnement sensible. Alors de même, l'activité de l'esprit, qui sera la contemplation, l'activité parfaite de notre esprit, elle sera comme au-delà de cette vie morale de prudence et d'amitié. Elle la dépasse de la même manière que notre esprit, l'esprit séparé du corps, dépasse la composition de l'âme et du corps. Et donc je vous relis ça, vous voyez bien le problème. Autant cet élément, donc le nous, l'esprit, est supérieur au composé humain, autant son activité est elle-même supérieure à celle de l'autre sorte de vertu, la prudence. Si donc l'intellect est quelque chose de divin par rapport à l'homme, la vie selon l'intelligence est également divine, comparé à la vie humaine. Vous voyez, donc, ce qu'on appelle la vie humaine, c'est la vie morale de l'homme qui mène sa vie humaine, simplement. Ce qui est divin, au sens des Grecs, hein, c'est ce qui relève de l'esprit fait pour la contemplation. C'est la vie propre de Dieu. Et donc, la vie contemplative, pour nous, elle est à la fois ce qui va être le bonheur plénier de l'homme, ce qu'on vient de voir, et en même temps, quelque chose qui dépasse l'homme. Ça a comme quelque chose de divin, donc de surhumain, comprenez ? Je ne la possède pas. Oui, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je ne peux la vivre que grâce à l'adoration. L'adoration m'ouvre à Dieu. Il ne faut donc pas... Oui, c'est très fort. Hein. La vie, selon l'intelligence, est également divine comparée à la vie humaine. Il ne faut donc pas écouter ceux qui conseillent à l'homme, parce qu'il est homme, de borner sa pensée aux choses humaines et mortelles aux choses mortelles. Mais l'homme doit... autant qu'il le peut, s'immortaliser et tout faire pour vivre selon la partie la plus noble qui est en lui. Et ça, c'est l'éthique religieuse. Hein. Si le nous séparé nous apparente à Dieu, on doit tout faire pour vivre de cette vie. Et c'est très fort, oui. Hein, il ne faut pas croire, il ne faut pas écouter ceux qui conseillent à l'homme parce qu'il est homme. Mais écoute, regarde-toi. Hein, t'as une âme et un corps, mais mon pauvre, t'as le ventre collé à la terre. Reste sur la terre. Cherche pas la contemplation, ça te dépasse. Oui. C'est de l'orgueil. C'est ce que disent certains. Cherche la contemplation. Mais c'est de l'orgueil, tu te prends pour qui? Oui. Et on voit bien, c'est la tentation de Hegel. Hegel dit, au fond, la contemplation, je veux la posséder, c'est pour moi. Non, je peux pas la posséder. Je veux la chercher, mais je ne la possède pas. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Ça me finalise, je suis fait pour cela, et pourtant je ne peux pas la posséder. Elle me dépasse. Donc elle me met dans une attitude de pauvreté, d'attente. Il ne faut donc pas écouter ceux qui conseillent à l'homme, parce qu'il est homme, de borner sa pensée aux choses humaines et mortelles aux choses mortelles. Mais l'homme doit, autant qu'il le peut, s'immortaliser et tout faire pour vivre selon la partie la plus noble qui est en lui. Car même si cette partie est petite par sa masse, par sa puissance et sa valeur, elle dépasse de beaucoup tout le reste. Oui. Oui. Autrement dit, c'est pas l'ordre de la quantité. Oui. C'est pas parce que je pèse 120 kilos que je suis plus contemplatif. Non. Oui. Non, ça dépasse. Oui. C'est-à-dire que le conditionnement humain, il est quantitatif. Voyez. Très important, oui, de voir ça. La quantité de l'ordre du conditionnement. Et la sagesse, c'est de l'ordre de la qualité de l'intelligence. Oui, c'est l'esprit de finesse. Oui. C'est pas une question de quantité. C'est autre chose. C'est vraiment quelque chose qui relève de l'esprit. Par sa puissance et sa valeur, elle dépasse de beaucoup tout le reste. On peut même penser que chaque homme s'identifie avec cette partie même, puisqu'elle est la meilleure partie de son être et la principale. Il dit « curios », principale, la partie seigneuriale, celle qui commande, première, plus importante. Il serait alors étrange que l'homme accorde à la préférence, non pas à la vie qui lui est propre, mais à la vie de quelque chose d'autre que lui. Et donc si l'homme est âme et corps, mais qu'en même temps il a l'esprit, l'esprit c'est ce qui est le plus important en lui. Donc en fait, ce qui est le plus important dans l'homme et le plus humain, c'est l'esprit. Et c'est à la fois comme surhumain, et pourtant c'est ce qui est le plus humain en lui. Et c'est très étonnant ça. C'est pour ça que les néoplatoniciens diront que l'homme est l'horizon du monde sens, du monde terrestre et du monde divin. Il est l'horizon, la rencontre entre Dieu entre Dieu et l'univers. L'homme a un corps et par son esprit, il est face à Dieu, pour le ciel, pour Dieu. Vous voyez ? Il serait alors étrange que l'homme accorde à la préférence, non pas à la vie qui lui est propre, la vie selon l'esprit, mais à la vie de quelqu'un d'autre que lui, la vie d'un animal. Ce serait étrange que l'homme, fait pour la contemplation, s'intéresse à quelque chose qui n'est pas sa vie propre. Et ce que nous avons dit plus haut s'appliquera également ici. Ce qui est propre à chaque chose, c'est par nature ce qu'il y a de plus excellent et de plus agréable pour celle-ci. Et donc, ce qui m'est propre, c'est ce qui est pour moi le plus excellent et le plus agréable. Et pour l'homme, par suite, ce sera la vie selon l'esprit. C'est cela, au plus haut degré, l'homme. C'est très extraordinaire, oui. Donc, ce qu'il y a de plus humain dans l'homme, c'est la contemplation. Mais, cependant, il ne la possède pas. Elle est comme surhumaine. Donc, il ne peut la vivre que dans la pauvreté. Elle n'est propre qu'à Dieu. C'est très étonnant. C'est pour ça que je vous disais, ça confirme bien, vu du point de vue de la contemplation, que c'est bien l'adoration qui est la partie fondamentale, l'acte fondamental de toute l'éthique religieuse. C'est l'adoration qui est la porte d'entrée dans la contemplation, au point de vue philosophique. Je ne peux contempler que grâce à l'adoration. Alors, je m'arrête quelques minutes, Reprenons dans, je sais pas, 10 minutes, ne vous dispersez pas trop. Et puis, donc je conclurai en voyant les conséquences de l'adoration sur l'amitié. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu.